à toi.
Bien, je me présente rapidement, pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Je m'appelle Marinet Jean, né en 1924, c'est-à-dire âgé de 85 ans. Ancien élève du lycée, j'ai intégré en seconde la rentrée de 41. En tant qu'élève instituteur d'ailleurs. À l'époque, le maréchal Pétain avait cru bon de fermer les écoles normales parce que c'était la source d'instituteurs un peu trop front populaire. Alors il a fermé les écoles normales et il nous a envoyés au lycée. En tant qu'élève instituteur, c'est-à-dire boursiers nationaux, parce que sinon, mes parents n'auraient pas été en mesure de me payer l'internat du lycée. Donc j'ai vécu l'occupation au lycée depuis 1941 jusqu'à la libération. Bon, j'ai fait partie dès le début de l'organisation de résistance à l'intérieur du lycée, qui s'est créée en 1942, mais j'avais déjà un peu fait un certain nombre de choses avec mon père, qui était responsable du secteur de Belliard. Voilà. J'ai été un petit soldat de la résistance, pas un héros qui a vécu sous la mitraille, comme à Stalingrad ou ailleurs. Donc c'est en toute simplicité. Vous pouvez poser n'importe quelle question, même si vous pensez qu'elle peut être gênante, vous pouvez y aller, hein. J'ai l'habitude, on fait cet exercice non seulement tous les ans ici, mais ailleurs. Donc je peux répondre à n'importe quelle question. Je vous demanderai de parler assez fort parce que mes oreilles ont 85 ans chacune. Et en général, je sais que vous avez tendance à parler un peu trop doucement par timidité ou je ne sais quoi. On commence tout de suite alors.
En tant qu'adolescent, vous faisiez quoi dans la résistance? Vous pouviez aider en quoi?
Donc oui, on a commencé en 82, c'est-à-dire que on nous a demandé si on voulait bien rentrer dans un mouvement de résistance dont le but final était de prendre les armes le moment venu. Alors en attendant, qu'est-ce qu'on faisait? D'abord, on a commencé à faire du recrutement, puisque bon, j'ai été dans les premiers recrutés à l'intérieur du lycée par Paul Morin, dont vous avez peut-être entendu parler, qui était un camarade de mon âge, mais qui avait été recruté à l'extérieur. Donc à travers lui, on a pénétré à l'intérieur du lycée. Donc premier travail, faire du recrutement. Contacter des copains assez sûrs, puisqu'il fallait vraiment être discret, vu l'état policier dans lequel on se trouvait. Hein. Police allemande, police française, qui était active, qui faisait bien son travail, la milice, enfin tout un tas de gens qui étaient aux aguets pour récupérer les résistants si possible. Donc, pour faire du recrutement, très prudent, s'adresser à des copains de lycée ou d'internat même, dont on pensait qu'ils étaient discrets et sûrs. On est arrivé à constituer à l'intérieur du lycée deux groupes de 30, donc 60 lycéens qui s'étaient déclarés prêts à prendre les armes quand on leur demanderait. Bon, en 41, en 42, on n'en était pas là. Donc recrutement et puis propagande et contre-propagande. Nous étions soumis à un bourrage de crâne à l'intérieur du lycée et à l'extérieur, un bourrage de crâne intensif. Le régime de Pétain et puis les Allemands aussi nous abreuvaient d'affiches géantes très bien faites, de journaux, de la radio. Toute l'information était absolument contrôlée et absolument menteuse. Donc on avait à lutter contre cette emprise. Et le moyen de lutter, ça a été la presse clandestine. Les divers mouvements de résistance qui s'étaient constitués ont senti cette difficulté de récupérer l'opinion publique qui était tellement matraquée qu'entre 40, 41 et 42, un grand nombre de Français étaient carrément pétinistes, sans parler de ceux qui étaient carrément pro-nazis. Donc, il fallait faire une contre-propagande et ça se faisait par les journaux clandestins. La saga des journaux clandestins, ça a été quelque chose d'assez spécial. Donc, nous recevions des journaux clandestins les copains rentraient des journaux, je vous en montrerai, et on avait à les distribuer à qui, auprès des amis dont on pouvait être sûr, quitte à eux ensuite de dispatcher, de répandre ces journaux partout. Ça a été un moment essentiel parce qu'il fallait reconquérir l'opinion publique, y compris dans le lycée, à l'extérieur, c'est vrai à l'extérieur, mais c'était vrai à l'intérieur. Donc ça a été le premier travail qui n'était pas sans danger, parce que il a fallu trouver des imprimeurs assez gonflés pour imprimer clandestinement, au quitte de se faire prendre, beaucoup d'ailleurs ayant laissé leur vie. Il fallait trouver des imprimeurs pour imprimer ces journaux, des gens pour rédiger aussi, puis ensuite faire la distribution. Là, ça devenait encore plus délicat parce que à l'imprimerie, il y avait une imprimerie à Bourg qui faisait ce travail. Ils s'en sont tirés d'ailleurs, mais il y a quand même eu beaucoup de casse chez les imprimeurs. Donc les journaux sortaient par petits paquets de l'imprimerie et il y avait tout un réseau de distributeurs dont nous faisions partie au lycée. Nous distribuions dans le lycée à charge à ceux qui recevaient le journal de le faire passer à d'autres. Ça a été le premier travail, mais un travail extrêmement important parce que il était indispensable de reconquérir l'opinion. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer à quel point on nous bourrait le crâne et à quel point les nouvelles qui auraient pu nous faire plaisir étaient censurées. Les journaux n'écrivaient pas ce qu'ils voulaient. Quelquefois, dans un journal, on voyait une colonne blanche avec l'indication « censuré ». S'ils avaient un peu trop parlé des succès de l'armée russe sur son front, par exemple, ou s'ils avaient parlé des résistants arrêtés sans dire que c'était des terroristes, des voyous, etc. Donc, il y a eu ce problème de reconquête de l'opinion. Et l'exemple d'un des journaux, ce que j'appelle les journaux clandestins, un mauvais papier, il fallait trouver le papier. Il fallait le trouver clandestinement parce que tout était absolument contrôlé. Il fallait trouver le papier, il fallait trouver le... Donc ça c'est le franc-tireur. Au départ, il y a eu plusieurs mouvements de résistance. Ça c'est Libération. C'est une autre tendance de la résistance. Ça c'est les prêtres du secteur de Saint-Claude qui ont protesté à cause d'une opération allemande à Pâques 44 dans leur secteur qui avait été absolument sanglante. Même les prêtres, contre leur hiérarchie, la hiérarchie de l'Église catholique était très pétainiste au départ, contre leur hiérarchie, ont voulu faire paraître une protestation contre les exactions allemandes. L'offensive allemande contre les maquis, ça s'est produit à trois reprises, ça a été absolument sanglant. Témoignage chrétien, il y a une partie des chrétiens qui ont basculé dans la résistance tout de suite. On a d'ailleurs reçu en conférence au lycée un des grands de cette tendance. Les lettres françaises, ça c'est tout à fait intéressant, un certain nombre d'intellectuels devant ce matraquage de l'opinion, ont voulu réagir, ont rassemblé des intellectuels, des écrivains, et qui ont sorti aussi des publications sous le nom Lettres françaises, revue des écrivains français groupés au Comité national des écrivains. C'était fondé par Jacques Decour, qui a été fusillé, bien entendu. Il y a eu tout un mouvement culturel qui a rassemblé les intellectuels et les écrivains qui était pour la résistance, alors qu'un certain nombre d'autres étaient carrément pour les Allemands ou pour Pétain. Je n'en citerai qu'un parce que je le déteste d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre, Céline, Louis-Ferdinand Céline, dont on vous dit maintenant que c'est un des plus grands écrivains du siècle. Moi je veux bien, mais ça a été un des plus grands salopards de cette période. Je vous parle franchement. Voilà, donc, il y en a beaucoup d'autres. Pas la peine d'insister là-dessus. Donc, distribution des journaux pour regagner l'opinion publique. Ensuite, il a fallu penser à l'essentiel, c'est-à-dire la préparation à combattre. Alors, dans la résistance civile, je pense à chez moi, à Belliard, il y avait une constitution de groupe aussi, on commençait à recevoir des parachutages. Alors, il fallait que des gens sortent le soir discrètement pour aller récupérer les parachutages d'armes, cacher ces germes, les enterrer ou les cacher quelque part, en vue des combats de la libération. Bon, au lycée, c'était pas possible. Nous étions presque tous internes. Alors, on ne pouvait pas participer au parachutage, on ne pouvait pas cacher des armes, bien sûr, ça aurait été stupide. Mais on commençait à apprendre à s'en servir. Le jeudi après-midi, jour de sortie, on allait par petits paquets, 3 ou 4, pour ne pas attirer l'attention, chez un camarade externe, Bouvet, dont les parents étaient cultivateurs à la périphérie de Bourg. La périphérie de Bourg, hein, parce que maintenant il n'y a plus de périphérie, c'est très grand. On allait chez Bouvet où il y avait une mitraillette, et on apprenait à se servir de la mitraillette, c'est-à-dire non pas tirer, parce que si on avait tiré à la mitraillette à la périphérie de Bourg, ça aurait attiré l'attention des Allemands. Or, à Bourg, il y avait une garnison allemande importante. On apprenait à la monter et à la démonter. Il fallait, en fin de compte, arriver à savoir remonter la mitraillette les yeux bandés. On allait aussi chez Marcel Tenon, le fils d'un employé cheminot, qui avait été un des promoteurs de la résistance aussi, pour faire le même genre de truc. Sur le plan militaire, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait faire. Mais bon, on se tenait prêt à prendre les armes le moment où il le faudrait, vous voyez, dans des conditions quand même assez rudimentaires. Hein. C'est pas parce qu'on avait démonté la mitraillette qu'on était apte à faire le coup de feu intelligemment. Enfin bon, il n'y avait pas le choix. La surveillance policière était absolument pesante, énorme. Je vous ai dit, la gendarmerie, la police française en civil, qui a été très active, dirigée par le fameux Bousquet. La milice, ensuite, qui a été une organisation qui a été créée en 1943, mais alors là, carrément, c'était des guerriers. La milice, qui faisait des combats, d'abord, ceux, par exemple, qui sont montés combattre les maquisards des Glières, mais qui faisaient aussi un gros travail de renseignement, tellement bien qu'ils avaient implanté dans le lycée Lalande, à Mouchard. Et puis, les polices allemandes, en particulier la Gestapo, et l'Abwehr qui était la police particulière de l'armée allemande. On était contrôlés de tous les côtés, dans un train, et les Allemands passaient, ils vous demandaient vos papiers d'identité. À la sortie des gares, on vous demandait d'ouvrir vos valises. Moi, j'avais à transporter, quand je rentrais chez moi le samedi soir, au début, c'était tous les mois seulement, le régime de l'internat du lycée. À l'époque, c'était autre chose que ce que vous connaissez. Bon, quand je rentrais chez moi, j'avais toujours dans ma valise soit des journaux, une fois une mitraillette, des détonateurs, du plastique. Mais je savais qu'à la sortie de la gare, il y avait un Allemand qui contrôlait la sortie des voyageurs et qui était susceptible de faire ouvrir la valise. Bon, c'était à pile ou face. Hein. Ça s'est toujours bien passé, mais il y a pas mal de copains qui se sont fait attraper. Soit par le contrôle dans le train, soit par le contrôle sur la route, soit par le contrôle à la sortie des gares. Le risque était permanent. Bon, ensuite, la période des combats, on pourra en parler après. Oui ?
À part votre père, votre famille savait que vous étiez...
Ma famille ? Oui, ma famille savait parce que mon père avait été recruté par la résistance. Et moi, je lui avais dit ce que je faisais au lycée. Ça tombait bien. Il avait été recruté en 42, mais il avait déjà fait pas mal de choses entre 40 et 41, mais dans le milieu syndical. Pétain avait dissous toutes les associations. La loi de liberté d'association, qui est une loi fondamentale de la démocratie, avait été supprimée par Pétain. Donc, entre autres, les syndicats ont été dissous. Et les anciens syndicalistes, dont mon père faisait partie, ont éprouvé le besoin de se rencontrer, de se regrouper, sans trop savoir ce qu'ils allaient faire, mais enfin, garder le contact entre eux. Donc, avant 1942, il avait déjà eu des contacts avec ses amis syndicalistes, Et puis en 1942, c'est le mouvement Libération qui est allé le trouver en lui demandant de bien vouloir prendre la tête d'une création à Bellegarde. C'est donc lui qui a créé ce qu'on a appelé l'armée secrète. Voici, c'est un mot qui vous est familier, l'armée secrète. Donc c'était ce qu'on avait fait au lycée, mais en ville. Donc c'était des gens qui s'engageaient à lutter dans la résistance. Comme ils étaient en ville, ils étaient appelés à recevoir des parachutages, à cacher des armes, et puis quelquefois à faire des coups de main quand on a commencé à opérer des destructions. Donc ils sortaient la nuit, discrètement, en évitant les patrouilles, puisque toutes les nuits des patrouilles allemandes circulaient, en plus à Bourg il y avait les patrouilles de la milice. Donc quand on a commencé à envisager des destructions, par exemple destruction de lignes électriques pour gêner l'industrie de guerre, l'armée secrète, secrètement, faisait ça la nuit. Donc c'est le travail que faisait mon père. Et je lui avais dit donc que j'étais recruté à Bourg, donc il n'y avait pas de problème entre nous. Je dirais même que j'avais été un adolescent un peu rétif, face à un père un peu sévère. Alors il y a eu quelquefois des problèmes, mais à partir du moment où on a été complices dans cette affaire-là, on s'est retrouvés. Et il m'a souvent confié surtout des transports de courrier. En rentrant de Bellegarde, j'avais souvent des lettres à déposer chez des dirigeants départementaux, par exemple. Transporter des plans aussi. Bref. Enfin, ma famille était dans le coup, ma mère était dans le coup également. Et puis, toute ma famille au village, à Vouvray aussi, était dans le coup. Et quand il y a eu la création des maquis, alors là, ça a été le grand truc. Tout le monde était dans l'affaire.
Vous avez des contacts avec ce qu'il y avait des organisations dans toute la France.
Excusez-moi, des contacts avec.
Des contacts avec le reste de la France, de résistance.
Je ne sais pas quoi tout.
Des contacts avec d'autres réseaux de résistance, mais hors de là, c'est ça?
Non. À notre niveau, on travaillait sur le plan local. Hein, on n'était pas. Ce sont les dirigeants, hein, les dirigeants départementaux, même certains dirigeants locaux comme mon père. Avait des contacts avec Bourg d'abord, parce qu'il y avait un échelon départemental, et puis avec Lyon. Mais ces contacts étaient difficiles, compte tenu de la pression policière dont je vous ai parlé. Quand il y avait un rendez-vous avec un dirigeant à Lyon, par exemple, ce rendez-vous était transmis soit par voie orale, soit par message codé, et puis la personne qu'on devait rencontrer devait montrer un signal. Tel journal sous le bras à tel endroit, ou bien un détail vestimentaire, vous reconnaîtrez. On ne le connaissait pas, la personne qu'on allait voir. Vous le reconnaîtrez à un chapeau comme ci et comme ça. Enfin bref, il y avait un système d'identification secret en dehors des noms. Il fallait connaître le moins de choses possible de façon à ce qu'en cas d'arrestation, on ne casse pas l'organisation. Quelqu'un qui aurait su beaucoup de choses sur Bourg et sur Lyon, arrêté, même un homme courageux, on savait que, vu les méthodes employées par la Gestapo, on ne peut absolument pas prévoir de la réaction de celui qui était torturé. Même si c'était un type formidable, on ne pouvait pas prévoir, sous les tortures de la Gestapo, et c'était des savants dans le domaine, s'il allait parler ou pas. Donc, le moins j'en sais, le mieux je me porte. Je ne sais que l'indispensable pour les tâches que j'ai à faire. Si ces règles avaient été bien respectées en ce qui concerne le général de Lestrin, qui était chef de l'armée secrète à l'échelon national, il y a eu des fautes de commises dans ce domaine-là, transmission de messages en clair, par exemple, défaut d'identification secret, le général de Lestrin n'aurait pas été arrêté. Il y a eu une cascade de fautes dans ce domaine qui explique son arrestation.
C'était pour savoir, est-ce que dans les lycées, il y a eu des gens qui ont été déportés ou pas?
Alors ici, au lycée Lalande, on a eu 11, 12, 13 déportés. 2 déportés en 1943 déjà. Donc les deux initiateurs de la résistance dans le lycée, c'est-à-dire Paul Morin et... Bon, ça va me revenir. Ont été arrêtés par la police française. Je dis bien par la police française, sur enquête des Français. Ils ont été arrêtés en tant que gaullistes, faisant de la propagande gaulliste. Jugés par un tribunal français à Bourg, condamnés à je ne sais plus combien, 5 ou 6 années de prison. Ça voulait dire qu'on les a transférés à une grande centrale pénitentiaire, dans Lot-et-Garonne, je crois, la centrale d'Es, où il y avait des centaines de résistants. Cette centrale a essayé une évasion collective, ce qui fait que les Allemands en ont pris le contrôle, et qu'ensuite ils puisaient dans cette centrale pour envoyer en déportation. Si bien que Paul Morin et son camarade se sont retrouvés déportés à Dachau, après avoir été arrêtés par la police française et jugés par un tribunal français. Ça en fait deux, ça. Les 11 autres ont été arrêtés pendant le bac par la milice. Vous n'avez pas connaissance de cet épisode de la milice au lycée. Je peux le raconter, donc, c'est quand même... Le bac était en train de se terminer. Il restait une épreuve pour une partie de nos camarades, qui était de la section scientifique, je crois. Je sais pas. Et le matin de cette journée-là, nous étions quelques-uns, dont 3 lycéens, à avoir eu un accrochage avec la milice dans le quartier, la rue Ténière, à la trésorerie générale. Je vous expliquerai pourquoi, on avait un coup de main à faire là, et ça avait été mouchardé, et on était attendu par la milice. Donc, échange de coups de feu, 2 de nos camarades blessés et faits prisonniers. Ça voulait dire qu'ils étaient susceptibles de parler. Blessés, affaiblis, pas soignés, massacrés par la milice, qui était encore plus méchante, parfois plus méchante que les Allemands. Donc, il y avait grand danger qu'ils parlent. Moi, j'avais pu m'échapper de cette souricière-là, et j'ai fait prévenir les camarades qui étaient encore au lycée en épreuve, dont Figuet, qui est Pierre Figuet, qui est le président de notre association. Je les ai fait prévenir en leur disant, il s'est passé telle chose ce matin, vous feriez bien de partir tout de suite. Il ne faut pas rester au lycée. Il va se passer quelque chose, la milice va sûrement réagir. Alors ils se sont entretenus entre eux, ils étaient 11 dans ce cas-là, 11 résistants à cette épreuve-là. Et puis ils ont dit, oh, il nous reste une heure à faire, la dernière épreuve, une heure, pour une heure on tente le coup. Alors ils sont restés pour faire ce devoir d'une heure, et c'est à ce moment-là que la milice, ayant su que des lycéens avaient participé au coup de main le matin, ils en détenaient un, d'ailleurs, Roger Guettet, qui avait été fait prisonnier sur blessure. Ils ont débarqué pendant cette épreuve du bac dans le lycée. Alors, fusils mitrailleurs en batterie dans la cour, des miliciens partout. Mon camarade Rampuel raconte qu'ils ont pénétré dans la salle en faisant sauter les fenêtres, pistolet à la main, le premier qui bouge, je lui brûle la gueule. Ce sont les termes exacts. Alors, tout le monde dans la cour d'honneur, y compris les filles, s'il y avait des filles, Madame Couty, la femme du docteur Couty de Belliard, en était. Tout le monde contre le mur. Alors, bon, on a trié les filles, on les a mis vite de côté. Ils considéraient que les filles n'étaient pas aptes à être dans la résistance, ce en quoi ils se trompaient, parce qu'il y en avait quand même. Ils ont rassemblé les garçons et ils ont fait le tri. D'abord, ils ont embarqué tout le monde. Tout le monde à Saint-Amour, qui était le siège de la milice. La milice spéciale encore. Et là, ils ont fait le tri par rapport à une liste établie par un lycéen qui était de la milice, mais on l'ignorait. C'était un milicien camouflé qui avait pu quand même, en laissant traîner ses oreilles, faire une liste de 11 noms. Sur 60, il avait récupéré 11 noms. Alors, donc, intrusion de la milice dans le lycée, fouille de tous les dortoirs, tous les casiers... coup de poing, coup de pied, fusil mitrailleur en batterie. Le surveillant général, qui était un Alsacien camouflé, récupéré, roué de coups, coup de pied dans le ventre, par terre, etc. Et puis, en fin de compte, donc, il y avait une liste de 11 résistants, 11 lycéens résistants. Alors, Ils ont été menacés d'être fusillés. Et puis, le chef de la milice, voulant montrer sa grande âme, a converti ça en expédition en Allemagne. Ils ont donc été expédiés en Allemagne. En principe, et c'était un mensonge, en principe, c'est un mensonge qui a couru dans la population, expédiés en Allemagne en camp de travail. En réalité, ils ont été expédiés en déportation, ce qui fait une différence. Vous savez qu'à l'époque, il y avait des travailleurs libres en Allemagne, en très grand nombre d'ailleurs. Mais il y avait aussi les camps de déportation où on mourait en très grand nombre. Donc ils n'ont pas été envoyés comme travailleurs libres, ils ont été déportés. Ce qui fait que au lycée, on a eu ces 11 déportés là le 5 juin. L'année d'avant, les deux promoteurs de la résistance. Et puis un ou deux autres au hasard des rafles. Mon grand ami Lepnek est décédé il n'y a pas longtemps, que vos camarades des classes précédentes ont entendu, a été raflé comme ça. Les Allemands avaient bouclé le secteur de Coligny et tout ce qui était en âge de travailler, hop, en Allemagne. Il a terminé au camp de Dora, c'est-à-dire dans les tunnels où on fabriquait les fusées, les V2. Donc un assez grand nombre de déportés. Et puis ensuite, donc il y a eu des morts au cours des combats de juin, juillet, août 44. Le lycée Lalande a été distingué comme ayant eu une activité résistante importante, ce qui fait que le lycée Lalande est le seul lycée civil titulaire de la croix de la médaille de la résistance. C'est le seul lycée, d'ailleurs, une plaque d'ailleurs, à la sortie. Un autre lycée a reçu la médaille de la résistance, mais c'est un lycée militaire, le lycée militaire d'Autun. Les lycéens sont là pour devenir des militaires, des officiers. Et aussi, ils ont eu beaucoup de casse lors des batailles de Meximieux, début septembre. Et eux aussi ont la médaille de la résistance, mais ce sont les deux seuls, en tout cas Lalande est le seul lycée civil. M'ajoute de dire que d'autres lycées auraient pu être décorés. Je sais par exemple que au lycée de Saint-Brieuc, il y a eu une casse terrible aussi. Des profs, des élèves, plusieurs dizaines, déportés, défusillés. On a retrouvé ça dans un grand nombre de lycées, mais massivement, c'était plus évident dans le lycée Lalande. Oui ?
Est-ce qu'il y avait de tous les bords sociaux en fait, dans
le groupe
de résistance ?
C'est toujours le même truc qui recommence. Recommencez, s'il vous plaît.
Est-ce qu'il y avait tous les bords sociaux dans les groupes de résistance ? On oubliait les différences en fait.
Voilà, oui. Question intéressante. De quel bord étaient les résistants ? Hein, c'est ça. On rentre dans la politique là. Alors effectivement, les mouvements de résistance qui se sont créés avaient non pas une option politique très précise, mais quand même une couleur politique. Pour s'en tenir aux trois plus grands mouvements de résistance, il y avait le mouvement Front National. Rien à voir avec le Front National d'aujourd'hui, hein. Rien à voir, c'était même le contraire. Qui était plutôt sous influence communiste. Il y avait le mouvement Libération, qui était sous influence socialiste, disons, mais vu très largement. Populaire, disons, c'est une résistance, recrutement populaire, le mouvement Libération. Et puis, le mouvement Combat. Mouvement Combat, qui a tout de suite été à tendance très militaire, et dans lequel il y avait des gens, beaucoup de gens de droite, comme on dit maintenant, voire même d'extrême droite. Le général de Bénouville, qui était un des principaux membres du combat, sortait de ce qu'on appelait la cagoule, au moment du Front populaire, c'est-à-dire extrême droite. Les pétinistes en général, les pétinistes convaincus, étaient des gens politiquement, disons, de droite. Donc la résistance, quand même, était plutôt de l'autre côté, encore que le mouvement combat n'a pas cru au général de Gaulle tout de suite. Donc, trois grandes tendances, mais c'est très large, hein, parce que dans chacun des trois mouvements, on retrouve tous les clivages politiques, à titre individuel, hein. Dans le mouvement combat, il y avait des communistes. Dans le mouvement libération, il y avait des gens plutôt socialistes, syndicalistes, mais il y avait aussi des gens de droite. Mais en, grossièrement, on peut quand même le schématiser de cette manière. Bon, il y a eu d'autres mouvements d'importance secondaire au niveau du nombre, de la quantité, qui étaient aussi plus ou moins orientés. Ça avait quand même une importance, parce que le mouvement libération était pour un mouvement populaire, un soulèvement populaire au moment de la libération. Le mouvement combat était plus militaire dans son esprit. Et il ne cherchait pas à faire du grand nombre, il cherchait à recruter des gens plus combattants. Le chef du mouvement combat a eu quand même des contacts avec Vichy. Freinet est allé trouver deux fois Pucheux, ministre de l'Intérieur de Pétain, c'est-à-dire grand chef de la police de Pétain. Il croyait qu'il pouvait y avoir une entente avec certains éléments du gouvernement de Vichy et la résistance. Ça a fait un gros patagas dans les milieux résistants quand on a su que Freinet était allé voir Pucheux. Mais naturellement, ça n'a pas marché. Pucheux l'a envoyé courir. Bon, et à l'autre bout, donc, il y a eu aussi des mouvements qui étaient préférentiellement tournés vers les États-Unis, alors que la plupart des autres étaient tournés vers l'Angleterre, où était De Gaulle. Le mouvement combat, par exemple, était en relation avec les Américains par le canal de l'ambassade américaine en Suisse. Et les autres mouvements le lui reprochaient, ça. Bon, mais pour l'essentiel, on était lié avec Londres, avec l'Angleterre. Mais pendant 2 ans, jusqu'à 42, les mouvements de résistance se méfiaient un peu de De Gaulle, le général De Gaulle, la caste militaire. Ils avaient un peu peur que De Gaulle soit trop militaire, puisse devenir une sorte de dictateur. La chose a été dénouée par le voyage en Angleterre de Christian Pinault, qui est allé en Angleterre avec le soutien du secteur syndicaliste, du secteur de gauche, disons, pour demander à De Gaulle de faire une déclaration dans laquelle il disait explicitement qu'il était là non seulement pour combattre les Allemands, mais aussi pour restaurer la République. Parce que ce n'était pas évident. Et il a obtenu de De Gaulle un texte où De Gaulle disait qu'effectivement il voulait restaurer la République et les libertés démocratiques. À partir de ce moment-là, tous les mouvements de résistance ont dit « Bon, notre chef c'est De Gaulle ». Mais ce n'était pas évident au départ. Oui ?
Et à partir de ce moment-là, est-ce que c'était De Gaulle qui dirigeait beaucoup les actions de résistance ? Est-ce qu'il y avait des choses plus organisées ? Ou est-ce que ça restait
par c'était le chef. Et il a été reconnu comme chef de la résistance par tous les résistants. Et ses décisions étaient les nôtres. Et il envoyait en France des émissaires. Ben, Moulin, par exemple. Vous avez entendu parler du fameux Moulin. Moulin a été envoyé par De Gaulle. Il était commissaire général, je crois. Bon, son titre, commissaire général du général De Gaulle. Auprès de tous les mouvements de résistance. Pour essayer de faire l'unification des mouvements de résistance sous la bannière de De Gaulle. C'était le travail de Jean Moulin, qu'il a réussi d'ailleurs, et puis qui lui a coûté la vie. Oui ?
Est-ce que vous connaissiez des gens qui cachaient des résistants ou des gens qui étaient recherchés par la police ou des juifs ? Comment on faisait pour les aider ?
Oui, on était amené à en connaître des gens qui étaient en proie à la police, qui avaient su assez tôt qu'ils allaient être arrêtés. Bon, il fallait les récupérer, oui. Et puis les munir d'une fausse carte d'identité, les envoyer quelque part ailleurs. Par exemple, si Paul Morin, s'il n'avait pas été arrêté, il a été condamné, libéré, puis arrêté de nouveau. Mais dans l'intervalle, il avait été prévu de lui faire quitter Bourg et de l'envoyer dans un autre coin de France où il aurait continué à faire de la résistance sous une autre identité.
Est-ce que vous avez été blessé, enfin, physiquement après, à cause de ce qui s'est passé enfin ?
Moi, personnellement ? Non, j'ai passé à travers. J'ai passé à travers les balles, j'ai passé à travers la déportation. J'ai eu beaucoup de chance. Chance que n'a pas eu mon père, puisqu'il est mort en déportation. C'était la chance. Hein. On vivait constamment dans l'inquiétude. On était susceptible d'être arrêté à n'importe quel moment, vu la puissance de la police, son activité. Et puis quand on transportait des choses, on savait qu'on pouvait être découvert. Donc on vivait en permanence dans l'inquiétude, dans l'appréhension, dans la peur. Ce qui vous dira qu'il n'a pas eu peur à cette période, vous lui direz que c'est un menteur ou un fou. On vivait dans la peur. Mais on s'y habitue, on vit avec. On vit avec la peur. On apprend à l'intérioriser, et puis voilà, c'est tout. On fait ce qu'on a à faire quand même. Quelquefois, c'est un peu difficile. Enfin.
Oui, je voulais vous demander aussi, comment dans le lycée, il y avait le reste des personnes qui n'étaient pas dans votre groupe de résistants, donc dans les 60, ils étaient donc pétinistes.
Alors, dans les autres, disons, ceux qui n'étaient pas résistants, il y avait toutes sortes de choses. Il y avait des pétinistes, oui, et puis il y avait des indifférents, ceux qui se fichaient pas mal du contexte. Ils faisaient leur petite vie à l'intérieur en tâchant de ne pas se faire remarquer. Bon, les gens hostiles, les indifférents, et puis peut-être un peu aussi les gens qui auraient fait de la résistance mais qui avaient un peu peur, ou des gens qui ne voulaient pas mettre leur famille en danger, c'est quand même une peur honorable. Donc il y avait un peu de tout. Mais dans le lycée Lalande, de vrais pétinistes, militants, il n'y en avait pratiquement pas. Il y a eu ce milicien qui venait d'un autre lycée, qui venait au lycée Lalande exprès pour ça d'ailleurs, mais qu'on ne savait pas être milicien. Et qui s'est montré extrêmement discret, mais qui écoutait les conversations. Vous savez, les internes, on discutait entre nous en groupe. Il est arrivé à attraper un certain nombre de noms comme ça, et c'est lui qui a établi la liste des 11 qui ont été déportés au mois de juin. Dans le public, en dehors du lycée, c'était un peu comme ça aussi. Hein. La résistance a été bien loin d'être majoritaire. Au début, elle était très, très minoritaire. Jusqu'à partir de 1942, quand les Allemands ont envahi la zone libre, les gens, ceux qui étaient restés pétinistes, parce qu'ils y croyaient à Pétain, hein, Pétain, le vainqueur de Verdun, etc. Ils y croyaient. Ceux qui étaient restés pétinistes ont vu qu'ils ne pouvaient rien faire, que les Allemands ont envahi toute la France jusqu'à la côte méditerranéenne. Alors là, il y a eu un basculement. Il y a quand même pas mal de gens qui ont ouvert les yeux à propos de Pétain, du maréchal Pétain. Bon, mais quand même, s'engager, prendre des risques, c'est rester quand même le fait d'une minorité. Oui.
Oui. Est-ce que vous aussi, dans la résistance, vous aviez des personnes qui étaient infiltrées dans le gouvernement de Pétain pour avoir des informations, donner des listes de,
oui,
des personnes
qui étaient infiltrées ? Ça a été aussi un travail de la résistance, d'essayer d'infiltrer des gens à la milice, par exemple. À Bourg, il y avait un secrétaire à la milice qui donnait des renseignements à la résistance. Enfin, ça, c'était extrêmement difficile, ça n'a pas été quand même quelque chose de massif.
Pourquoi vous avez choisi de résister quand vous connaissez les risques ?
Voilà la question de base. Pourquoi s'engager dans cette aventure-là ? Alors, moi, je vais vous donner ma réponse à moi. Hein. J'ai des camarades qui vous répondront de façon différente ou légèrement différente. En ce qui me concerne, quand je suis issu d'une famille ouvrière, comme je vous l'ai laissé entendre tout à l'heure, mon père était militant syndicaliste. Je me rappelle fort bien de la période du Front Populaire. J'étais assez grand pour voir ce qui se passait. La période de la guerre d'Espagne, où le fascisme a commencé à se montrer. C'est-à-dire que dans ma famille, on savait très exactement ce que ça voulait dire, le nazisme, Hitler. Ce qui n'était pas évident aux yeux de la population en général. La population en général disait, pourvu qu'on ait la paix. C'est pour ça qu'on a signé les accords de Munich, d'ailleurs. Donc, chez moi, les Allemands, ce n'était pas seulement les Allemands, c'était les Hitlériens, les nazis. Même avant qu'on soit dans la résistance. Alors, quand on nous a proposé d'entrer dans la résistance, dans l'organisation, on était tout à fait prêts. Le patriotisme, d'abord, voir des Allemands en ville qui défilaient en tapant leurs bottes, c'était pas très agréable. On savait aussi qu'ils affamaient la population, c'est-à-dire qu'ils prenaient en France tout ce qui leur était nécessaire. Des brutalités, des exécutions aussi. Bon, tout ça, c'est, disons, le patriotisme pur et simple. L'armée allemande en France, c'est pas tolérable. Bon, mais l'emprise était tellement grande que beaucoup de gens disaient, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Mais pour nous, s'ajoutait la dimension idéologique, c'est-à-dire la lutte contre le nazisme. Tous les Français n'avaient pas conscience de ce que pouvait être le nazisme. Ils ont compris après, hein, quand on a eu la libération des camps de déportation, par exemple, ils ont vu de quoi étaient capables les nazis. Alors, en ce qui me concerne, en ce qui concerne mon père, l'engagement, c'était ça. C'était lutter contre le nazisme qui, pour nous, c'était l'enfer. Le nazisme, c'était l'enfer. Il l'a prouvé, d'ailleurs. Donc, c'était un engagement militant. J'ai des camarades qui, eux, sont engagés simplement parce que les Allemands en France n'étaient pas tolérables. Il fallait sortir les Allemands. Le patriotisme, pur et simple. Voilà, je vous ai donné ma réponse et puis la réponse que pourraient vous donner d'autres de mes camarades. Donc, voilà. Oui.
Vous avez quand même gardé des bons souvenirs d'avoir été résistant.
Des bons souvenirs, les copains arrêtés, déportés, des copains martyrisés, ensuite pendant les combats des copains tués, des familles de mon père déportées, ce ne sont pas des bons souvenirs, non. Mais enfin, il était nécessaire de le faire. Dans la part des bons souvenirs, bon, peut-être quand même la satisfaction d'avoir essayé de faire quelque chose, hein, c'est-à-dire de s'être conduit honorablement. Et puis, les souvenirs de camaraderie quand même. Les souvenirs de camaraderie, les dangers courus ensemble, c'est valable d'ailleurs pour toutes les armées du monde. Hein. Les dangers courus ensemble, ça crée des liens d'amitié qui sont très forts. Tous les camarades qui viennent rencontrer des classes au lycée Lalande, vous pouvez le constater, on a tous 85 ans et plus. Ça s'est passé en 1940, vous faites le calcul, on est encore resté très, très amis. On est très heureux de se rencontrer. Il y a un lien plus fort que d'autres liens possibles, la camaraderie sportive par exemple. Là, on a un lien beaucoup plus fort. Par les dangers courus ensemble, genre, sans doute. Mais c'est vrai dans toutes les armées. Les gens qui ont combattu ensemble et qui en sont sortis ont contracté des liens solides avec leurs camarades. En plus, en ce qui nous concerne, la satisfaction d'avoir eu raison avant les autres. Quand on est entré dans la résistance, on a eu raison avant la majorité de la population. Ça aussi, c'est une connivence avec nos camarades.
Est-ce que vous vous êtes déjà caché dans une pièce ou dans les souterrains de la lampe, par exemple ?
J'ai pas tout compris encore une fois.
Est-ce que vous vous êtes déjà caché dans des pièces, des passages secrets, des souterrains ?
Non. Il m'est arrivé de me cacher, non pas dans des trous, mais ailleurs, hein. C'est arrivé donc de Bellegarde, de monter au village où j'ai toute ma famille, où il y a eu trois ou quatre maisons où je pouvais être logé, nourri, chauffé, voire caché dans la grange. Ça m'est arrivé, oui. En ville aussi, au mois de juin, quand on a eu cette affaire avec la milice, là, j'ai dû me réfugier chez un ami, un bon ami. Il y en a plusieurs.
Pourquoi justement est-ce que vous venez nous raconter tout ça alors que c'est des souvenirs assez difficiles pour vous et c'est peut-être pas marrant de reparler de ça, quoi.
C'est vrai que c'est pas drôle de reparler de tout ça. Et puis je dois vous dire qu'on a mis longtemps à se décider à en parler. En gros, en ce qui me concerne, moi et la plupart de mes copains, pendant 40 ans au moins, on n'a rien dit. La guerre était finie, tout le monde est reparti dans la joie, il fallait reconstruire, c'est une période effervescente où tout le monde avait du travail, ça avait duré 4 ans avec de grands malheurs, donc on avait tout le monde avait un peu hâte d'oublier tout ça, et nous on s'est senti un petit peu en dehors du jeu. Hein. Donc on n'a pas dit grand-chose. Les associations d'anciens maquisards, bon, elles existaient, mais bon, on ne parlait pas trop. Les déportés ont eu vite fait aussi de se taire, parce qu'ils ont tout de suite compris qu'il était impossible de faire comprendre ce qu'ils avaient subi. Ça, c'est encore un sujet qu'on pourrait développer. Alors, mais petit à petit quand même, on en est venu à se dire ce qui s'est passé, 4 ans de massacre, 50 millions de morts en Europe, en 4 ans, c'est quand même pas rien. Et tout ce qui s'est passé en France. Alors, ça mérite quand même d'entrer dans l'histoire. Et pour que ça entre dans l'histoire, il faut que les acteurs témoignent. Qu'on dise, qu'on écrive, faut qu'on parle. À partir de ce moment-là, on a commencé à faire du travail de mémoire qu'on fait au lycée depuis une dizaine d'années seulement. À l'initiative d'un camarade qui, tout d'un coup, s'est dit, mais enfin, c'est pas possible. Tout ce qui s'est passé au lycée, là-dedans, ça a été grave. Il y a eu pas mal de morts. Les jeunes qui sont actuellement au lycée doivent le savoir, ça fait partie de l'histoire du lycée et de l'histoire du pays. Quoi. Et on ne construit pas un pays en négligeant son histoire. Je répète que si on vient vous voir, c'est pas pour se faire passer pour des héros. Hein. Je n'ai pas été un héros, j'ai été un petit soldat de la résistance. Et je viens témoigner. Honnêtement, je pense, il existe des témoignages malhonnêtes. Hein. Si vous voulez, on en reparlera de la valeur du témoignage. Il y a beaucoup de choses à dire. Les gens ont écrit. De mon temps, c'était une cloche dans la cour d'honneur que le concierge venait agiter toutes les heures. On disait au prof, monsieur, ça grôle. Ça voulait dire qu'il fallait arrêter tout de suite la leçon. Hein. C'était l'heure, c'était terminé. Oui.
Pardon. Vous étiez tout seul par les 60 ou il y avait des profs qui étaient complices ou des secrétaires?
Alors, les profs, on ne savait pas trop ce qu'ils pensaient. Certains étaient résistants, mais on l'ignorait et il valait mieux. Hein. Chacun son truc. Hein. On a appris après la libération que certains avaient été résistants, d'autres ont été indifférents, comme dans la population française, hein. On retrouve les mêmes proportions. Un seul a été résistant, déclaré, et c'est notre professeur d'éducation physique, Marcel Cochet, qui est le gymnase qui est utilisé, porte son nom. Il était prof de gym, puis c'était un homme extrêmement extraverti, qui était très proche des élèves, très familier avec les élèves, on parlait beaucoup, il n'a pas pu s'empêcher de nous faire savoir qu'il était de la résistance, et finalement tout le monde savait que Marcel Cochet, enfin tout le monde, au moins tous les résistants, on était en connivence avec lui. D'autres étaient résistants, mais ils n'en ont rien dit, on l'a su qu'à la fin. Par contre, il y a eu un professeur dont il faut signaler l'existence, professeur de français qui s'appelait M. Jolion. Il était prisonnier de guerre, il a été libéré, il est revenu, il a repris ses cours au lycée, c'est un prof de français. Excellent d'ailleurs. Je m'empresse de le dire parce qu'après je vais dire du mal de lui. C'est un excellent prof de français, mais il était venu dans le lycée pour faire la propagande pétainiste. D'ailleurs, ça lui valait le titre de... comment on appelle ça? Professeur d'éducation générale. Il était prof de français, mais il était le professeur d'éducation générale du lycée. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du lycée, il devait impulser toutes les initiatives qui pouvaient nous conduire à militer dans le pétainisme. Par exemple, nous conduire en ville, écouter des conférences faites par des envoyés de Vichy pour convaincre nous convainc qu'il fallait être obéissant à l'égard du maréchal, qui nous demandait de bien travailler, qu'il ne fallait pas écouter Radio Londres, etc. Voir des films de propagande. On ne voyait que ça d'ailleurs au cinéma. Hein. La télévision n'existait pas à l'époque, je vous le rappelle. Donc les informations, ça se passait au cinéma une fois par semaine. Avant le film, il y avait les actualités, on appelait ça les actualités, c'est-à-dire une revue des événements de la semaine au cinéma. Alors naturellement, c'était aussi une bonne occasion de faire une propagande. On voyait sans cesse le maréchal Pétain se promener. On voyait l'armée allemande qui gagnait toujours, qui avançait toujours, même quand elle reculait en Russie, etc. Donc au cinéma, on subissait aussi cette propagande. Alors il est arrivé une fois qu'on nous emmène en ville voir un film, excusez le mot, absolument dégueulasse. Ce film s'intitule Le Juif Sus. C'est un film fait par les Allemands sur un personnage intitulé Le Juif Sus, qui avait le physique convenu, c'est-à-dire un nez crochu, des lèvres épaisses, enfin un aspect repoussant. Et bon, tout le déroulement du film consistait à montrer que ce juif était un voleur, un violeur, etc., etc. Enfin, un film de propagande, mais d'une grossièreté énorme. Alors, on nous a conduits voir ce film. Bon, ça n'a pas pris. La mayonnaise n'a pas pris, là. On a chahuté abondamment. On a tellement chahuté que finalement, la séance s'est terminée avec les lumières du cinéma allumées à moitié, de façon à ce qu'on puisse repérer ceux qui faisaient plus de potin que les autres. Il y avait d'ailleurs là quelques miliciens dans la salle qui étaient là pour observer les meneurs. Donc, vous voyez, on nous conduisait voir un film comme ça, dont je dis que c'est vraiment une horreur, le maximum de la saleté en propagande. Mais là, nous, on a réagi. On a chahuté, on a tellement chahuté que un prof d'histoire-géographie, un petit homme, d'aspect très vieillot, qu'on chahutait volontiers, et on avait tort parce que c'était un type bien, mais il ne savait pas s'imposer. Et ce jour-là, il a fait quelque chose. À la fin de la séance, il est monté sur son banc dans le cinéma, il était présent, et il nous a harangués. On ne s'attendait pas à ça, c'était un prof qu'on chahutait, vous vous rendez compte. Il nous a harangués. « Jeunes gens, n'écoutez pas cette propagande !» Enfin, il nous a fait tout un discours, il a fini au poste de police. Comme c'était un prof du lycée, le lycée Lalande à l'époque, il y avait deux lycées dans le département. Hein. Et le lycée Lalande, le vieux lycée, l'ancien collège des Jésuites, c'était quelque chose. Et un prof du lycée Lalande, en ville, c'était un personnage. Donc, M. Audierne, ce professeur-là, il a passé 2 heures au poste de police et on l'a relâché. Mais il avait eu le temps de nous haranguer à la fin de ce film. Et on s'était rendu compte là qu'on avait tort de chahuter cet homme, qui était d'ailleurs un grand blessé de la guerre 14-18.
Je vais vous poser une question, mais en fait, c'est un lien, mais sans plus. Je suppose que ça a commencé doucement, enfin, là, pour que la police elle arrive et tout ça, que ça a commencé tout doucement, puis après que ça s'est amplifié. Et est-ce que vous pensez que, malgré l'histoire et tout ce qui s'est passé, enfin, tout ce qu'on sait, ce qu'on nous apprend en cours d'histoire, il y a des choses, je dis similaires, mais pas tout à fait similaires, qui peuvent se reproduire, mais en moins grande intensité.
Oui, bien, justement, vous m'avez demandé tout à l'heure pourquoi on est entré en résistance. Bon, je vous ai donné la réponse, c'était la réponse immédiate, hein, celle du moment. Mais si on continue à essayer de faire l'histoire, le travail de mémoire, mais c'est aussi faire l'histoire, c'est parce que on a l'impression que tout ça peut recommencer. D'ailleurs, les grands écrivains de la déportation, de la résistance, terminent toujours comme ça, en disant « tout ça, ça peut recommencer ». Les germes existent. Et les situations favorables à la poussée de ces germes existent, ou pourraient exister beaucoup plus. Sachez qu'il y a, à travers toute l'Europe, un grand nombre de petits groupes de jeunes, des petits groupes de jeunes, qui se déclarent hitlériens fascistes. Et qui font des réunions, et qui se montrent en ville, et qui font le salut hitlérien. Ils existent. Ce sont ceux qui peuvent mettre une bombe dans une église juive, par exemple. Hein? si on tient à mon âge, où je pourrais rester tranquille à la maison, si on tient à venir vous parler, c'est que en vous racontant ce qu'on a fait, ce qui a existé, on voudrait aussi vous prévenir contre ce qui pourrait revenir. N'oubliez jamais que ça peut revenir. Et quand c'est venu en France en 40, il y a un tas de Français qui n'ont pas compris ce qui allait arriver. Nous, on avait compris, comme je vous l'ai expliqué, parce qu'on avait mesuré ce qu'était l'hitlérisme. Il y avait beaucoup de Français, de ceux qui ne s'intéressaient pas du tout à la politique, même à la citoyenneté, qui n'ont pas vu venir le coup. Ou ils l'ont vu venir trop tard. Alors, c'est pourquoi on tient à vous parler, à vous dire, soyez lucides, ne laissez passer aucune tentative de suppression des libertés élémentaires, et les libertés de la République, la liberté d'association, etc. Il faut ne jamais laisser passer le moindre commencement, parce qu'on met le doigt dans l'engrenage, et puis ensuite on aboutit à... Il faudrait raconter l'histoire de l'Allemagne depuis 1918 jusqu'à 1933. C'est flagrant, hein, une situation qui s'est dégradée à l'occasion d'une situation économique désastreuse, et puis qui a mis naître comme ça des petits groupes d'extrémistes, de fascistes, et qui ont trouvé un terrain favorable pour se développer ensuite. Alors ces groupes de fascistes, ils existent actuellement, dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe, on recense des groupes de 10, 20, ce sont des jeunes en général, qui se réunissent, qui chantent les chants hitlériens, et puis de temps en temps, font du potin dans la rue en tendant le bras, ou vont casser la figure à un jeune juif qui passe. Ça existe. Il faut le savoir, il faut le craindre, et puis même dans la politique normale, ordinaire, il devrait sortir de nos entretiens cette idée qu'il faut être très attentif à la moindre atteinte aux libertés républicaines, à la citoyenneté.
Parce que, moi je me demande, est-ce que, normalement, maintenant le fascisme et tout ça, c'est interdit en France dans la loi.
Oui.
Et donc, comment est-ce que ça se fait que, par exemple, certaines personnes, je vais citer par exemple Le Pen, puissent tenir des propos.
Regrettablement, vous parlez aussi d'un... Je vous ai dit tout à l'heure, mais la détestation que j'ai à l'égard de l'écrivain Céline, la détestation que j'ai à l'égard de Le Pen, elle est équivalente. Oui, il a été condamné, je ne sais combien de fois, à une peine financière, ou... Bon, il n'a jamais été en prison. C'est bien regrettable. Mais la discussion existe. Hein. Est-ce que, en les punissant sévèrement, on ne va pas en faire des héros? Est-ce qu'on ne va pas trop attirer l'attention sur eux? Cette discussion est permanente au sein de la classe politique. Faut-il être très sévère avec ces gens-là, ou au contraire les ignorer un peu, de façon à ce que, dans l'opinion publique, ils s'éteignent? Moi, je le regrette. Je pense à le numéro 2 de Le Pen, M. Gollnisch. Gollnisch est un universitaire de haut rang, hein, professeur de droit international, je crois qu'il est aussi professeur de langues orientales.
En japonais,
c'est grosse tête. Et cet homme, il est moins apparent que Le Pen. Le Pen, il est tonitruant, bon, mais il fait un gros travail, et en particulier, il soutient activement tous les écrivains ou les écrivaillons qui sortent des textes nazis ou pro-nazis actuellement. Par exemple, Forisson, le dénommé Forisson, il a été condamné une fois, deux fois, trois fois, et maintenant il va au tribunal international, soutenu par Gollnisch. Bon, on ne sait pas trop quoi faire contre ces gens-là. Ils existent. Alors, ce qui est grave, c'est que j'en ai toute une liste, hein, de pro-nazis qui sont des intellectuels. Donc, des gens, je ne dis pas cultivés, je dirais instruits. Des gens qui sont instruits. ils n'ont aucune excuse quand ils disent que les chambres à gaz n'ont pas existé. Ils n'ont aucune excuse quand ils disent que le chiffre des morts est exagéré. Ils le savent. Ils ont une culture, un niveau intellectuel suffisant pour savoir que tous les témoignages concordent, il n'y a pas de discussion possible. Mais ils s'entêtent dans ce mensonge. Et en toute lucidité. Et c'est pour ça que je les déteste profondément, parce qu'ils sont d'une malhonnêteté intellectuelle totale. Ce qu'ils font, ils savent qu'ils le font. Ils savent ce qu'ils font. C'est ça. C'est pas le petit nazi de quartier qui est là pour pousser un coup de gueule et lever le bras. Ce sont des intellos qui savent ce qu'ils font et qui connaissent l'histoire. Et qui veulent déformer l'histoire, transformer l'histoire. On parlera peut-être de témoignages tout à l'heure. Quand nous serons tous morts, il restera les écrits. Et parmi les écrits, il y aura les écrits de ces gens-là. Alors comment ferez-vous le tri? Qui croirez-vous? Les anciens résistants qui ont écrit un grand nombre de livres, ou les pro-nazis comme Gollnisch ou Florissant qui ont écrit aussi un grand nombre de livres? Il va falloir choisir. Et pour choisir, il vous faut des éléments. C'est une des raisons qui nous pousse, nous, au grand âge que nous avons, de venir encore vous trouver. En pensant que vous pouvez accorder un crédit à notre parole.
Oui. Vous avez dit tout à l'heure que, à partir du moment où on voyait qu'il y avait déjà la censure, enfin, qu'il y a des choses qui montraient qu'en clair, on était plus encadré, c'était des moments où il fallait qu'on s'inquiète. Entre guillemets, c'est ce que vous avez dit. Je ne suis pas sûr pour les mots. Donc, excusez-moi, en tant que révolutionnaire entêté. Enfin, on n'est pas. Quand vous parlez de la censure, ça peut être aussi de la censure par rapport à des choses. Par exemple, monsieur le président fait quelque chose, la vidéo qui a été filmée de lui va être censurée. Il y a plus de policiers. On doit penser quoi?
Mais alors c'est beaucoup plus sournois comme phénomène. C'est vrai que par la presse et par la radio, les gens qui sont en place ont la possibilité de détourner, mais de minorer certaines choses et d'augmenter d'autres dans une simple vue de propagande politique. Ça existe, il ne faut pas se cacher. Mais là, on reste quand même dans le régime républicain. Donc, il y a là des syndicats et des partis politiques qui ont à faire leur boulot.
Mais comment est-ce qu'on le voit quand on passe? Parce que quand on passe du régime républicain au régime, je sais pas, dictatorial, ou je ne sais pas ce que ça peut être d'autre. On ne voit pas directement que
c'est... Oui, c'est progressif, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un certain nombre de lois élémentaires qui constituent le fondement de la République et de la citoyenneté, comme la liberté d'association, la liberté religieuse assortie à la laïcité. Les problèmes par rapport au comportement de la police. Hein, on a des exemples extrêmement récents où on constate quelques dérives qui sont contraires aux droits de l'homme, aux droits humains. Alors c'est tout ça qu'il faut garder en tête et ne pas négliger. Mais bien sûr, ça devient complexe par rapport à la situation actuelle. Enfin, si vous recueillez nos entretiens, cette base que... La notion de base, c'est la liberté, mais pas la liberté de Gollnisch ou de Florissant. Ils ont la liberté, mais on peut les dénoncer. Parce que c'est ça qu'il faut retenir pour votre futur. Toujours sur ce sujet-là, sachez par exemple que en 1940 et en 1941, le maréchal Pétain s'est attaqué aux fonctionnaires. Les fonctionnaires qui s'étaient montrés militants à l'époque du Front populaire, soit communistes, soit socialistes, soit syndicalistes, soit tout simplement républicains, ont été sanctionnés. Soit mis à la porte, soit transférés au fin fond de la Cambrousse. Ça a été vrai pour les instituteurs, ça a été vrai pour tous les fonctionnaires, les douaniers, les cheminots. J'ai connu un certain nombre de cheminots à Belliard qui ont été carrément mis à la porte, puis mis dans des camps. S'il y a eu des camps en France, pas l'équivalent des camps de déportation, mais enfin des camps d'internement des opposants politiques. J'ai dans la tête le cas d'une personne, son mari était militant syndicaliste très connu, communiste aussi, chassé de la SNCF, puis interné dans un camp. La famille chassée de les cités SNCF, vous savez qu'il y avait des HLM propres à la SNCF, chassée de son logement. Donc une femme qui se retrouvait avec trois gosses, pas de logement et pas de salaire, pas de paye. C'était flagrant, ça, en 1940 et 1941. Tous les fonctionnaires qui avaient été un peu trop militants ont été sanctionnés. J'ai un oncle douanier qui a été envoyé à l'autre bout de la France, un instituteur de Bellegarde, c'est un militant socialiste, et c'était un débatteur remarquable dans les réunions publiques. Depuis, j'ai un rapport des renseignements généraux, la police des renseignements généraux de 1934 à son sujet. Il était déjà repéré en tant que militant, qui avait des contacts avec les chômeurs, etc. En 40, et avec l'approbation de la municipalité, il a été, non pas chassé de l'enseignement, mais envoyé au fin fond de la Loire, dans je ne sais quel bled. Il revenait pour les vacances, mais il a été marqué. Il avait sa marque dans le dos. Et aux vacances de Pâques, il est venu en vacances à Belliarde. C'était en même temps qu'une grande offensive allemande contre les maquis. Donc Belliarde était occupée. Derrière les Allemands, il y avait la milice et la Gestapo, les civils. Et Pinard a été assassiné par des Français de la Gestapo. Vous voyez, d'une simple punition administrative consistant en un déplacement, par aggravation progressive de la situation, on est arrivé à l'élimination physique. Il a été assassiné. Et sont encore jetés dans l'eau. C'est un exemple. Il y en a d'autres, mais celui-là, je le connais bien. Parce que... Oui.
Après la guerre, après la libération des camps de concentration et tout ça, quand les gens sont revenus en France, est-ce qu'il y a eu une aide par rapport à... Parce qu'il y en avait beaucoup, je suppose, qui avaient perdu soit leur maison, soit leur emploi, soit même toute leur famille, donc ils devaient être seuls. Est-ce qu'il y a eu une aide, enfin quelque chose?
Les aides qui ont... Bon, comme aide, il y a eu la reconstruction des maisons détruites par incendie, les fermes qui ont été détruites dans la montagne par les Allemands, les propriétaires ont pu reconstruire. Il y a eu un service spécial de la reconstruction. Bon, en ce qui concerne les biens des personnes, ben, il ne s'est pas passé grand-chose. Les déportés ont été beaucoup aidés quand même quand ils sont revenus. Des financièrement, médicalement, mais alors cela vraiment, on ne peut pas faire moins. Hein. Mais autrement, c'est rien passé de spécial. Hein. Mon père n'est pas rentré, le salaire de ma mère, c'était pas gras. Mais c'est tout, hein. On s'est trouvé comme ça. Il fallait se débrouiller.
Quelle a été la réaction de l'opinion publique quand on s'est aperçu qu'il y avait des camps de concentration et d'extermination? Quelle a été la réaction des gens en France?
J'ai toujours pas bien compris, vous m'excusez. Hein.
Quelle a été la réaction des gens en France quand ils se sont aperçus qu'il y avait des camps de concentration, que les gens revenaient dans un état pitoyable
Ça a été un étonnement formidable. Personne n'imaginait. On savait que les camps étaient très durs, mais personne n'imaginait à quel point ça pouvait être inhumain. Il y a paru d'ailleurs un certain nombre d'ouvrages, dont un dans l'un qui s'appelle Le Choc. Le choc de voir arriver des gens qui sont partis en pesant 75 kilos et qui sont rentrés en pesant 30 kilos. Hein, qui avaient des jambes moitié de ça, les joues creuses, le regard dans le vide. Moralement, intellectuellement, des gens qui étaient complètement paumés, des physiques, des santé complètement ébranlées. Tout le monde est resté sans voix devant ce phénomène. On n'aurait jamais cru. Mais ces déportés qui sont rentrés n'ont pas été capables de transmettre. Ils se sont rendus compte que c'était tellement gros que ce n'était pas croyable. Je cite l'anecdote suivante. Un déporté qui rentrait, très maigre, très fatigué. Alors, le cercle de famille discute avec lui. Et, de quoi as-tu le plus souffert? La réponse, de la faim, puisque dans les camps de déportation, on mourait de faim. Ben, la faim? Oh, ben c'est que nous aussi, on a eu faim, avec le rationnement. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais il y avait le rationnement des aliments pour les Français. C'est que le rationnement, nous aussi, on a eu faim. Après ça, le déporté, il s'est tu et il s'est dit, ben, c'est pas la peine d'insister, ils ne comprendront jamais rien, c'est trop gros, c'est trop grave, c'est pas imaginable, on n'a pas les mots pour, non pas l'écrire, mais le faire comprendre. Ce qui explique aussi que la littérature concentrationnaire a commencé à faire de l'effet une vingtaine d'années après. Le livre le plus célèbre sur les camps, c'est le livre de Primo Levi, avec qui tu as entendu parler. Si c'est un homme, c'est considéré comme le meilleur, ce n'est pas tout à fait vrai, mais enfin quand même, comme le meilleur des livres de déportés, parce qu'il a su non pas seulement décrire la misère physique, hein, les coups, la faim, l'épuisement au travail, il a su aussi décrire la destruction de la cervelle de ces gens-là. Ben, le premier livre, Si c'est un homme, est sorti quelques années après la libération, aucun succès. Il a fallu, je ne sais plus combien, je sais dans mes documents, une vingtaine d'années avant qu'on redécouvre ce bouquin et qu'on se mette à le lire sérieusement et à en tirer quelque chose.
Est-ce que justement pour vous ou pour les Français qui ont été un peu en contact avec ça, ça a changé quelque chose dans votre façon de penser, dans vos opinions politiques ou religieuses ou...
Ça, non, ça n'a pas changé, ça a affermi. Ça a affermi. Je suis d'une famille de pensée, vous l'avez compris. On avait raison. On a eu raison avant les autres. Et on a encore raison maintenant de dire attention, ce qui est arrivé peut se reproduire.
Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait des gens de la langue qui avaient été déportés, des élèves. Est-ce qu'il y en a qui sont revenus?
Excusez-moi. Oui.
Vous avez dit qu'il y avait des gens qui avaient été déportés de la langue, des élèves de la langue.
Oui.
Est-ce qu'il y en a qui sont revenus?
Oui.
Les 11 qui ont été arrêtés par la milice n'ont pas été dans un vrai camp de déportation, c'était un camp de représailles. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup souffert, et ils ont été sous les bombardements, mais ils sont tous revenus. Et 11. Il y en a un qui a eu de la chance, qui a pris une balle dans le ventre de la part d'un SS pendant un déplacement, mais qui n'a pas été achevé. D'habitude, c'était une balle dans la nuque, hein, celui qui ne peut pas suivre, une balle dans la nuque. Ils l'ont laissé comme ça, ce sont des paysans tchèques qui l'ont récupéré et conduit à l'hôpital. Il a été opéré. Une balle dans le ventre, ça pouvait être grave, mais il s'en est bien tiré parce que précisément, il avait le ventre vide. Il n'avait pas mangé depuis la veille. Alors le chirurgien a pu l'opérer et il est rentré. Les deux premiers, Paul Morin et l'autre, ils sont rentrés aussi, bien qu'eux étaient dans un vrai camp de déportation. Paul Morin, qui est à peu près de ma stature, hein, il est de ma taille à peu près, il faisait 33 kilos, je crois, quand il est rentré, et il a eu de la chance. Ceux qui sont rentrés ont eu un moment une chance. Il a eu la chance, une fois, d'être sélectionné, pour ainsi dire, pour travailler dans une usine, pour vérifier des pièces des fusées, ou des moteurs d'avion, je crois, et vérifier la qualité des pièces, c'est-à-dire un travail à l'abri et avec des objets légers. Il a été à ce régime-là pendant quelques mois. Ça lui a permis de passer le cap. Bon, d'autres n'ont pas eu cette chance. Mon père a été envoyé au camp du Struthof. Le camp du Struthof, il est en Alsace. Vous pouvez aller le voir. C'est pas loin. Et c'est assez saisissant. Si vous allez là-bas, vous allez avoir un choc. Hein. Donc au camp du Struthof, l'essentiel du travail, c'était le travail à la carrière. Il a été établi là, le camp, parce qu'il y avait une carrière de granit des Vosges remarquable, dont les Allemands avaient besoin, Hitler voulait faire de beaux monuments. Bon. Donc, et ça s'est passé en hiver. Il est arrivé là-bas fin janvier, dans les Vosges, à 800-900 mètres d'altitude. Je ne sais pas si vous avez des notions de géographie assez claires, mais c'est un climat extrêmement rude, plus d'un mètre de neige pour travailler à la carrière. Bon, et puis avec le manque de nourriture, etc. Il n'a pas tenu le coup, il a résisté deux mois seulement, et cependant c'était un homme qui avait un très fort caractère et qui était habitué aux travaux physiques aussi. Il a tenu le coup deux mois. Il faut savoir que ceux qui travaillaient à la carrière, s'ils étaient fatigués ou malades le matin, incapables d'aller jusque là-bas, leurs camarades devaient les porter jusqu'à la carrière, puis les déposer au sol. Et le soir, quand ils revenaient au camp, les camarades devaient le reprendre, vif, bon vif, hein, et le ramener, parce que le même mort, il devait être présent à l'appel. Alors, un mètre de neige, un froid abominable, pas de vêtements, pas de soins, il a tenu deux mois. Parce qu'il était classé, il faut savoir que chez les déportés, il y avait deux catégories essentielles, les déportés ordinaires, si je puis dire, tant un grand nombre sont morts d'ailleurs, et puis les déportés classés NN, Nacht und Nebel, c'est-à-dire nuit et brouillard. Cela relevait d'une procédure particulière, c'était ceux qui étaient considérés comme les plus dangereux. Normalement, il devait passer devant une cour de justice en Allemagne et être exécuté. Décapitation à la hache. Bon. Quand la résistance s'est beaucoup développée, le nombre de déportés NN s'est accru, de telle sorte que les tribunaux allemands qui devaient s'occuper d'eux ont été complètement débordés. Alors qu'est-ce qu'on en a fait? On les a mis dans les camps de déportation. Mais avec un régime spécial, c'est-à-dire ils n'avaient pas la biraillée. Ils étaient habillés avec des oripeaux, n'importe quoi. Je sais que mon père avait, on lui avait donné un petit par-dessus de femme. Ce qui contribuait aussi à les détruire du point de vue moral, intellectuel. Et puis, bon, en lettres, avec gros pinceau rouge, les lettres NN et une croix dans le dos qui voulait dire c'est la cible. Les NN ne devaient pas rentrer. Il faut savoir que le déporté ordinaire, même celui qui a beaucoup souffert, et même ceux qui sont morts, ont eu au moins une fois dans leur captivité le droit d'envoyer une carte. J'en ai là d'ailleurs, je peux vous montrer. Une petite carte comme ça, écrite en allemand. Celle que j'ai là, elle vient de Mauthausen, il y a le tampon de la poste de Mauthausen. Le déporté est théorisé à écrire « Je suis en bonne santé, ne faites pas de soucis. » C'est tout ce qu'il est. Alors, beaucoup de gens à Bellegarde que je connais ont reçu carte et ils savaient que leur fils ou leur frère était au camp de Mauthausen, mais ils ne savaient pas ce que c'était que le régime du camp de Mauthausen. Donc celui dont j'ai la carte, là, il est mort deux mois après, il avait écrit à ses parents « Je suis en bonne santé dans tel camp. » Mais les NN, eux, ils devaient disparaître. À partir du moment où mon père est parti de la gare de l'Est de Paris, on a perdu sa trace. J'ai là d'ailleurs la photocopie de son dernier billet. À la gare de l'Est, il avait récupéré une petite feuille de carnet, comme ça, où il a pu écrire au crayon « Nous partons pour l'Allemagne, destination inconnue, vous en faites pas, etc. » Ce papier a été glissé entre deux planches du wagon, sous le ballast, et un employé de chemin de fer de la gare l'a ramassé. Il y avait l'adresse de ma mère derrière. Il a envoyé ce papier à ma mère en lui disant « Je suis cheminot à la gare de l'Est, j'ai trouvé ce papier sur le ballast en assistant au départ d'un convoi pour l'Allemagne. Il met courage, espoir, et il signe X. parce qu'une lettre qui arrivait chez ma mère, donc l'épouse d'un chef de la résistance déporté, c'est une lettre qui était à tous les coups ouverte par la censure, ce qu'on appelait la censure, la surveillance des courriers. Et celui qui envoyait cette lettre, donc, ne pouvait pas s'identifier. Il a signé X, parce qu'on ne pouvait pas remonter à la source. Et ça a été la dernière trace de vie de mon père. Après, on n'a pas su. C'est en 45 que des camarades, dont Paul Morin, et puis le seul de ses camarades qui a survécu, nous ont raconté ce qui s'était passé.
Pour en revenir au recrutement, vous faisiez comment pour aborder le sujet avec les civils?
Alors, c'est au pifomètre, on discutait beaucoup, les internes en discutaient beaucoup de la situation. Le front russe, par exemple, les avancées, les reculs de l'armée rouge, de l'armée allemande, c'est des choses dont on parlait. La police française, la propagande de Pétain qu'on nous faisait, c'était quand même un sujet de discussion entre nous. Alors, à travers ces discussions, on arrivait à se rendre compte, ceux qui étaient vraiment excédés par ça, et puis ceux qui s'en foutaient un peu. C'est bien que c'était un petit peu au pifomètre, on disait, tiens, celui-ci, il a vraiment l'air de ne pas aimer le régime Pétain, on va essayer de lui en parler. D'autres, on se rendait compte qu'ils n'en avaient rien à faire, donc il ne fallait pas se découvrir auprès d'eux. Mais c'était risqué, hein. C'était risqué. C'est comme ça que mon père a été arrêté d'ailleurs. Il était en relation avec un commando, un groupe franc, si vous préférez, il organisait le rapt du chef de la Gestapo du pays de Gex. La grosse garnison allemande était à Gex, puis il y avait une autre garnison à Bellegarde, mais le commandement était à Gex. Et il y avait dans ce secteur Bellegarde-Pays-Gex une Gestapo très active, dirigée par un Français qui ne s'en cachait pas. Tout le monde savait que Capri, c'était le chef de la Gestapo. Mais il avait des mouchards clandestins dans toute la population. Soit des gens par idéologie, soit, dans la plupart des cas, des gens à qui on donnait de l'argent pour ça. Et donc, il met en place l'arrestation, enfin, le rapt de Capri. Ça aurait été important au maquis de faire parler Capri, de lui faire dire qui étaient ses indicateurs pour limiter les dégâts de la dénonciation. Donc, si Capri avait pu être monté au maquis, il allait en voir de toutes les couleurs pour qu'on lui fasse dire quels étaient ses indicateurs. Alors le projet était en place, puis l'un des membres du commando a eu la langue trop longue pour se vanter un peu, je pense. Il a raconté ça à un de ses amis. Alors, on va faire un coup, tu vois, on va choper Capri, on va le monter au maquis. Et il s'est adressé précisément à un indicateur de la question, dont il croyait que c'était un ami. Alors, arrestation, il y a eu 4 arrestations, dont une à Bourg. Le commando, eux, c'était des gens mobiles, ils n'ont pas été pris, et les résistants sur place, donc mon père, 2 personnes du pays de Gex et une personne de Bourg, un quartier de Bourg, ont été arrêtés sur ce truc-là. Parce que ce commando, c'était des durs, c'était des gars solides, hein. Ben, pour une fois, il a eu la langue un peu trop longue et il a parlé à celui qu'il ne fallait pas. Comme ça dans la résistance un certain nombre de catastrophes dues à des excès de bavardage.
Est-ce qu'il y avait des faux espions, des gens qui donnaient des informations?
On retombe toujours sur le même problème, hein.
Est-ce qu'il y avait des gens qui donnaient des fausses informations à la Gestapo?
Oui, il y a tout un réseau d'indicateurs. Certains étaient connus. Vous avez peut-être vu le film qui parle de l'affaire de la rue Lauriston. Et d'autres n'étaient pas connus. Ils étaient secrètement financés pour dénoncer. Ils se promenaient innocemment. On a vu des trucs. Le voisin qui entendait son voisin écouter Radio Londres, il j'écrivais à la police ou à la Gestapo. Mon voisin écoutait Radio Land. C'était interdit. Ça allait jusque-là. Le mari trompé qui dénonçait son rival. Le voisin grincheux qui dénonçait son voisin parce qu'ils avaient un contentieux au niveau de la propriété. J'ai une lettre de dénonciation comme ça. Qui aurait pu faire des dégâts à Bellegarde s'il n'avait pas été intercepté. Ça fait partie des mauvais souvenirs parce que la délation en France, le mouchardage, ça a été une véritable industrie. On s'est rendu compte quand même que pour un pays comme la France, on ne s'attendait pas à une telle vague de dénonciation, de délation. Il y a même eu la délation en public par les journaux. Dans je ne sais plus quel journal, je crois que c'est Au Pilori, un des plus détestables des journaux de la collaboration. Au Pilori, ça veut tout dire. C'est la propagande de Pétain et des Allemands, et il dénonçait des gens. Le Céline, dont je vous ai dit que je détestais, bien qu'on le considère comme un grand écrivain, Céline, dans Pilori, dénonce nommément Robert Desnos, le prince des surréalistes. Il dénonce Desnos en tant que juif, etc. Il y en a une demi-page sur Desnos. Desnos a été arrêté et il est mort au camp de Theresienstadt 4 jours après la libération. Il avait le typhus, il était libéré, mais il est mort quand même. Et il a eu la force d'écrire 4 ou 5 lignes à sa femme juste avant de mourir. Il a été dénoncé par Céline, carrément, comme ça, c'est écrit dans le journal. Je pourrais vous retrouver les termes exacts, et puis bien d'autres. Je cite ces cas-là parce qu'ils sont très connus et flagrants.
Et après la guerre, qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui ont dénoncé les autres ?
Bien, tous ceux qui ont été identifiés ont passé en jugement. Un certain nombre ont été fusillés. Pas beaucoup, beaucoup moins qu'on a voulu le dire. Il y a eu toute une campagne animée par Maurras après la libération, disant que l'épuration, on avait appelé ça l'épuration avait été un bain de sang en France et qu'on avait tué 100 000 personnes soupçonnées de collaboration. Et c'était un mensonge éhonté. Les études historiques ont montré que le nombre de personnes fusillées, soit sur décision de tribunal, soit sur décision d'un tribunal de maquis, s'élevait à entre 10 et 11 000, non pas 100 000. Alors il y a beaucoup plus de gens que ça qui ont passé devant les tribunaux. Mais la plupart s'en sont tirés sans trop de dommages. Quelques années de prison, et puis la grâce au bout de 2 ans ou 3 ans, et puis voilà, ils sont sortis comme ça. Céline, d'ailleurs, a été jugée, condamnée, puis bon, il a fait, je ne sais plus, 2 ou 3 ans de prison, puis libéré. Après la guerre, bon, ça n'avait plus trop d'importance, ils s'en sont tirés comme ça. Je citerai le cas d'un écrivain ami de Céline, qui était le rédacteur en chef de Je suis partout, une revue allemande financée par les Allemands, Brasillach qui a été considéré comme un écrivain supérieur. Effectivement, il avait une très belle plume. Moi, je pense qu'il avait une plus belle plume que Céline. Mais c'était un délateur dans sa revue Je suis partout. Il a dénoncé toutes sortes de gens. Il a même osé écrire « Les Juifs, il faut les tuer tous, et écoutez bien la suite, et ne pas laisser de petits. » Elle ne pas laisser de petits. Alors lui, à la libération, au lieu de s'enfuir en Allemagne comme Céline, il s'est livré à la police. Et il a été fusillé. Bon, il était courageux, alors que l'autre, c'était un lâche.
Est-ce qu'on sentait le poids de la guerre dans la vie quotidienne ? Ça changeait vraiment par rapport à avant ou pas ? Mis à part les soldats dans la rue, tout ça.
La vie quotidienne en France a beaucoup changé après la guerre par rapport à la vie avant. c'est difficile à expliquer, mais avant-guerre, la France était un pays rural. Dans les villages, il y avait une quinzaine d'exploitations agricoles qui vivaient de leur production. Les villes étaient encore bien resserrées. Puis après la guerre, tout ça a explosé. Et on est entré dans une vie moderne. Pas tout à fait celle que vous connaissez maintenant, puisqu'il n'y avait pas encore de téléphone portatif ni de télévision. Enfin, c'était quand même une période où il fallait reconstruire. Il y avait beaucoup de vie.
Au niveau moral,
la grande majorité des gens, enfin la population, ils ont voulu oublier. Ils ont voulu oublier. On en a marre, 4 ans de guerre, toutes ces horreurs qu'on nous décrit, c'est fini, on passe à autre chose. C'est pour ça que pendant longtemps, plusieurs dizaines d'années, les anciens résistants, là, on n'a pas dit grand-chose, et les déportés non plus. Il y a des déportés qui n'en ont pas parlé dans leur famille. René Letnay, qui naît dans ces séances-là, qui est décédé il y a 2 ans, lui, il n'avait pas été arrêté dans le cadre du lycée, il a été raflé. Il avait vécu à Dora, qui était, si c'était possible, un des camps les plus durs. Il est rentré, pendant une année, il était, bon, je dirais, à moitié fou. Il avait encore une année à faire au lycée, il fallait qu'il repasse le bac, le deuxième bac. Il n'était plus dans sa tête. Il circulait, il allait voir son frère à Lyon, il retournait voir sa mère. Il n'est pas rentré au lycée, il tenait des propos incohérents. Il avait la tête complètement à l'envers, alors que c'était un élève brillant. Bon, et puis il s'est retapé quand même, il s'est remis. Moi, j'ai été avec lui en année professionnelle instituteur, après la guerre, quand il a pu reprendre. Alors, de temps en temps, il tombait dans la déprime. Il devenait sombre, il ne parlait plus. Le directeur de l'école normale, M. Derrioz, me faisait appeler chaque fois, puisque j'étais considéré comme son meilleur ami. Il disait, qu'est-ce qu'on fait de l'été? Il ne va pas du tout, là, il ne parle pas. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Alors je lui disais, ben écoutez, il faut le renvoyer chez lui, il y a sa maman, il y a sa fiancée, il va passer un mois chez lui, ça va peut-être le remettre d'aplomb. Il a passé l'année scolaire comme ça. Eh bien, il n'a jamais dit ce qu'avait été sa vie dans les camps à ses enfants. Je connais l'un de ses fils, on se rencontre de temps en temps. Il m'a demandé d'ailleurs qu'on prenne une journée tous les deux pour que je lui raconte, parce qu'il m'a dit, mon père ne nous a jamais dit ce qui s'était passé dans les camps. Et quand il est venu, quand on a commencé à faire les rencontres entre les élèves et nous, il y a ça une dizaine d'années, je crois, je ne sais plus, on était deux à l'époque, il y avait plus de vivants que maintenant, on était deux par classe. C'est moi qui organisais l'affaire, donc je mettais un déporté et un résistant ensemble dans une classe, pour qu'ils puissent parler des deux événements, tous les deux. Alors la première fois que ça s'est produit, le résistant c'était le docteur Couty de Bellegarde, l'ancien du lycée aussi, et puis mon ami René Letnay, qui était chargé de parler de la déportation. Et à la sortie, docteur Couty me dit, ben écoute, ton copain, il n'a rien dit. J'ai pas pu le faire parler. Il n'a pas été capable de parler. Bon, l'année prochaine, je le prendrai avec moi. Comme on était très liés, je pensais que ma présence allait l'aider. Alors effectivement, l'année suivante, il était avec moi, et quand je lui ai demandé de parler de la déportation, il a commencé à aligner 3 ou 4 phrases, et puis il s'est étranglé, fini. Pour plus en dire plus. On a recommencé encore, finalement, il y est arrivé, et sur les dernières années de sa vie, il en parlait même volontiers et avec humour. Il y a des filles qui sont maintenant sorties du lycée, qui se rappellent de lui comme un homme qui en parlait volontiers et qui y ajoutait toujours une petite pointe d'humour, un humour très personnel d'ailleurs. Mais il lui a fallu des années. Lorsqu'on a écrit, je ne sais pas si vous en avez connaissance, ce livre sur la résistance au lycée, livre bleu. Il n'est pas là. Il existe au CDI, vous pouvez le voir. C'est une série d'articles. Chacun d'entre nous a raconté une histoire qui lui a paru caractéristique, la résistance, la déportation ou autre. Quand on a demandé à René Letnay de faire un article sur sa déportation, il a fait la sourde oreille, il nous a envoyé courir pendant des mois. Pour finir, quand on a été au bord d'imprimer ce bouquin, j'ai insisté quand même, j'ai dit, écoute René, bon, tu as quand même des choses à dire, il faut le dire. Bref, il dit, bon, je vais te faire un papier. Et j'ai reçu un bout de papier, comme ça, où il ne parlait pas de sa déportation, il parlait du voyage. Je ne sais pas si vous le savez, mais le transport de France dans les camps, c'était aussi horrible que la vie dans les camps. Hein. Tout le monde n'arrivait pas vivant. Dans ce papier-là, il racontait le voyage. Mais c'était des mots, des phrases non faites. Il jetait des mots sur le papier. Alors qu'il rédigeait très bien, ça je le savais, il n'a pas été capable de rédiger. Il jetait des bouts de phrases. J'ai demandé l'autorisation de mettre par-ci, par-là, un point de virgule, pour y remettre un peu de l'ordre, sans ôter la force du témoignage. Il m'a dit, tu fais ce que tu veux, j'en ai rien à faire. Donc si vous prenez connaissance de ce livre qui s'appelle « Histoire extraordinaire pour des lycéens ordinaires », vous trouverez l'article de René Letnay, vous vous rendrez compte que même donc très longtemps après sa déportation, il avait beaucoup de mal à en parler. Ce qui donne la mesure de l'horreur qu'ils ont subie. Oui ?
Est-ce que dans votre vie de résistant, vous avez été un jour contraint de mettre un silence des mouchards ou des collaborateurs pour pas que l'action ou les choses que vous faites soient balancées ?
Non, je n'ai jamais tué personne. Ça ne m'est pas arrivé. Mais ce sont les circonstances, parce que j'ai des camarades qui ont participé à des pelotons d'exécution de mouchards. J'ai un bon copain de Bellegarde qui avait été dénoncé, qui avait été également dénoncé à la Gestapo par le même qui avait dénoncé mon père. Il avait trouvé le moyen, ce gaillard, de s'infiltrer dans un maquis. C'était planqué dans un maquis en juin 1944. Et puis tout de même, il y avait une enquête de police, il y avait un policier de la résistance, M. Monval, qui était très très fort. Il l'a détecté, il l'a retrouvé. Alors il l'a récupéré dans ce camp de maquis. Le chef de maquis ignorait totalement que ça avait été un mouchard, bien sûr. Il l'a récupéré, il l'a conduit à Nantua. Nantua, à l'époque, en juin, était sous le contrôle des maquis. Et notre chef, le colonel Roman, avait reconstitué le tribunal, la préfecture, petite république en reconstitution. Il a donc été jugé, ce bonhomme-là, il a été jugé par un tribunal en bonne et due forme et condamné à mort. Alors, en attendant le jour de son peloton d'exécution, il a été envoyé dans un camp de détenus où on détenait justement tous les collaborateurs, les mouchards et autres. Et sur ces entrefaites, il y a eu la grande offensive allemande du 14 juillet 1944, qui nous a fait beaucoup de mal, ça a été dur, dur. Et les Allemands sont arrivés à ce camp avant qu'on ait pu l'évacuer. Il a donc été libéré et il a disparu. Il s'appelait Caretti, il était d'origine italienne. On a supposé donc qu'il était reparti en Italie. Moi, je l'ai cherché longtemps. Sa femme habitait dans le pays Tchèque, on savait où. Avec une autre personne, on a fait souvent le guet près de cette maison en disant il va arriver un jour qu'il vienne voir sa femme, mais en vain, on ne l'a jamais vu. Donc il a fini sa vie à l'abri en Italie, incognito. Mais si je l'avais attrapé, il n'aurait pas passé devant un tribunal.
Il a parlé de l'accrochage avec la milice avant le bac.
Oui.
Et c'était quoi cette histoire d'accrochage?
Vous pourrez en lire le récit dans l'ouvrage que je vous indique, qui est au CDI, mais enfin, je peux en dire quelques mots. C'était juste avant le débarquement, le 5 juin. Le colonel Roman Petit, donc le chef des maquis et de l'armée secrète, savaient que le débarquement était imminent et ils s'attendaient à la montée au maquis de l'armée secrète, c'est-à-dire des civils qui, à partir du débarquement, devaient devenir militaires et s'adjoindre au maquis. Ça représentait 4000 personnes environ qu'il allait falloir nourrir, habiller, etc., qui allaient arriver. Et le colonel n'avait pas reçu suffisamment d'argent de Londres. C'est Londres qui envoyait de l'argent par parachutage, mais à l'époque, il était plutôt démuni. Alors, il s'est dit, il faut prendre l'argent quelque part. Où est-ce qu'on va le prendre? On va le prendre dans les caisses de l'étape de Pétain. Donc, il était question d'attaquer la trésorerie générale. La trésorerie générale, c'est un organisme où tous les salaires des fonctionnaires sont rassemblés, etc. Ça représente beaucoup d'argent. Et je me suis trouvé dans le groupe franc, dans le commando qui devait faire ce travail-là. Nous étions 5, dont 3 Normaliens. On avait fait passer les épreuves du premier bac, on était libre. Après, il y avait les épreuves du second bac, c'est là que les copains ont été arrêtés. Nous étions 5, on débarque en ville à Bourg, à bord d'une traction avant noire. Vous avez peut-être vu ça au cinéma à l'époque. La traction avant noire était le sublime véhicule des maquisards et des voyous. C'était la voiture la plus rapide et la plus sûre. Nous étions 5 et on devait intercepter le trésorier de la trésorerie générale qui transportait des fonds depuis la Banque de France jusqu'à la trésorerie générale qui est située rue Ténière. On pénètre sans encombre en ville, armé, mitraillette. Moi je n'avais qu'un pistolet, les autres avaient des mitraillettes. Et on s'arrête dans une petite rue, je crois que c'est la rue Gustave Doré. C'était pas un bon choix d'ailleurs. Petite rue, juste à l'écart. Ça a été le malheur d'ailleurs, parce que cette petite rue, on pouvait la boucler aux deux bouts. Elle n'est pas très longue. Et on attendait ce caissier qui devait descendre de la rue de la Sorraine. Bon, le chef du corps franc me dit, toi tu sors, j'avais juste un pistolet pour avoir une apparence normale. Et tu t'avances un peu, et tu nous feras signe, quand il déboule de la vie à la Sorraine, c'est à ce moment-là que la voiture va arriver dans la trésorerie générale pour le coincer. Donc je fais ce qu'on me demande, je m'avance jusqu'à devant la trésorerie générale, et à ce moment-là, une camionnette de miliciens débouche à toute allure, venant de l'autre côté, et bouche la rue. Une autre camionnette bouche la rue de l'autre côté, la voiture prise dans le piège, et aussitôt rafale de mitraillette, etc. Donc, moi j'étais en dehors du coup, j'ai pas été pris dans le coup, là. J'ai pu me dégager. Mais là, on a eu deux copains blessés, donc qui ont été faits prisonniers, deux autres qui ont pu se tirer à travers des maisons voisines, et moi qui étais en dehors du coup. Donc, 3 rescapés, 2 prisonniers blessés, dont mon meilleur ami, mon plus vieux copain, mon copain d'école maternelle, Roger Guettet, qui a pris une balle là, dans la région de la clavicule, qui ont été faits prisonniers. Pour l'histoire, l'un d'entre eux a été apparemment très gravement blessé, mais ce n'était qu'une apparence. Il était par terre, et le chef d'un des deux groupes, je peux dire son nom, il s'appelait Bourderie, sort son pistolet, il dit, oh ben celui-là, il n'en a pas pour longtemps, on va le finir. Et l'un des miliciens qui était là a écarté son arme en lui disant, non mais je reconnais, c'était un copain. Ils étaient amis, sans savoir que l'un faisait de la résistance et que l'autre était de la milice. Alors il a empêché qu'on l'achève. Donc ils ont été pris, soignés tant bien que mal tout de suite à l'hôpital, puis aussitôt après les miliciens les ont donnés aux Allemands. Ils ont été transportés à la caserne allemande. Ils sont restés là quelques jours, sans soins. De temps en temps, il y a un Allemand qui ouvre la porte, qui me voit, pas capoute, pas mort. Et puis, au bout de quelques jours, le chef de la garnison allemande les a renvoyés à la milice en leur disant, finissez donc votre sale boulot. Parce que les Allemands méprisaient les miliciens. Finissez donc votre sale boulot. Alors, ils se sont retrouvés prisonniers à la milice. Ben, après, ce serait plus long à raconter comment ils s'en sont sortis. C'est un peu plus long. Mais vous trouverez ça dans le dans l'ouvrage, on l'a raconté en détail. On n'a qu'à aborder que des petits morceaux du sujet. Enfin, c'est vous qui avez choisi, hein, qui avez choisi les questions.